France Culture. And say you're right. Love is kind of crazy with a spooky little boy like you. You always keep me guessing. I never seem to know what you were thinking. And if a girl looks at you, it's for sure your little eye be winking. I get confused, 'cause I don't know where I stand. And then you smile and hold my hand.
Les Midi de Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Zora Vignier et Boris Pinault. Merci à toute l'équipe, Aïssa Toundoy, Jules Barbier, Lise Ripoche, Marceau Vassy, Margot Chaboche, à la réalisation Benjamin Hu, avec Raymond Alboui à la technique.
Vous écoutez France Culture.
Chaque vendredi dans le Book Club, nous visitons la bibliothèque d'une personnalité. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec celle d'Amélie Nothomb qui a publié récemment « Tant mieux » aux éditions Albin Michel.
Marie Richeux.
Dans ses rayonnages littéraires, on peut trouver Rilke, Rachilde, Cocteau, Mishima ou encore Marguerite Yourcenar.
Le Book Club, du lundi au vendredi à 15h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Question du soir, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 18h20 et c'est 1h30 d'analyse, de rencontres et de découvertes.
Quentin l'a fait.
Un débat d'abord, débat d'actualité avec des chercheurs et des experts. Une discussion ensuite avec un invité qui vient parler de l'actualité de la recherche, de la pensée et des idées.
Question du soir, du lundi au vendredi à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
On se retrouve lundi à midi. En attendant, il est 13h30 et il est temps pour vous de retrouver Sonia Kronlund pour Les Pieds sur Terre.
Les Pieds sur Terre, Sonia Kronlund.
Les Américains ont un personnage comme ça qui s'appelle John Doe pour les hommes et Jane Doe pour les femmes. Ils désignent chacun le citoyen et la citoyenne lambda, monsieur et madame tout le monde, l'homme et la femme de la rue. On les trouve dans les films, les livres, les articles, ils incarnent les valeurs fondatrices de l'Amérique et sa mythologie, l'Américain moyen. En France, ce serait plutôt monsieur et madame Dupont, même si en vrai, le nom le plus courant ici, c'est Martin, et qu'il n'y a pas chez nous de mythologie aussi forte. Alors, au pied sur terre, on s'est dit quand même que ce serait peut-être une bonne idée de ne pas toujours chercher des gens qui ont des histoires étonnantes ou signifiantes à raconter, mais plutôt de se demander justement quelles sont les vies et les histoires qui arrivent à monsieur et madame tout le monde, à nos John et Jane Doe. Des vies simples, banales, moyennes. La réponse, c'est bien sûr que non, ça n'existe pas. Mais n'empêche, l'idée est restée d'aller à la rencontre de gens au hasard, juste parce qu'ils ont le même nom. On est parti sur Martin et on a essayé de trouver des prénoms qui traversent les générations, les territoires et les milieux sociaux, à l'exclusion, hélas, des personnes issues des immigrations ou des étrangers vivant en France, des Mohamed et des Kronlund, qui est un nom super banal, je vous précise, en Suède. On a bien essayé de faire des statistiques précises, des graphes et de convoquer le big data. Et puis à la fin, on a laissé tomber, on a fait un peu au hasard. Voici donc Jeanne et Paul Martin, le premier épisode d'une série qui s'inspire aussi du projet extraordinaire de l'artiste Pauline Rousseau, qui s'appelle Homonyma, où elle rencontre et photographie et raconte depuis des années des femmes qui portent le même nom qu'elle. Elle a même fait monter plein de Pauline Martin sur la scène d'un live magazine. Premier épisode donc tout de suite avec un couple, Jeanne et Paul Martin et deux autres Jeanne Martin dans un petit village à côté d'Annecy, à Bilieu en Isère, à Saint-Galmier dans la Loire. Et c'est Valérie Borst qui vous propose ces histoires.
Bonjour, je vous serre la main.
Mais oui, avec plaisir.
Donc là, nous sommes chez vous.
Nous sommes chez nous, oui. Chez Paul et Jeanne Martin. Donc, je m'appelle Jeanne Martin. Je suis mariée avec un Paul Martin et j'habite actuellement dans le Forêt, département de la Loire. J'ai 92 ans, j'aurai 93 ans à la fin de l'année. Je me suis mariée en 1956. Mon mari était stéphanois, donc on a voulu essayer de s'installer à Saint-Étienne, et puis c'était très cher. Et finalement, on a décidé de rester dans mon quartier de Saint-Chamond, où il n'y avait pas d'horlogerie-bijouterie. Et tout a bien marché. C'était la bonne époque, les années glorieuses, parce qu'à l'époque, on avait presque rien. On avait une montre pour sa première communion, et puis on la gardait jusqu'à la fin de sa vie. À l'époque, on disait « Oh ben, il faut être infirmière ». J'avais toujours perdu une goutte de sang, moi, alors j'avais pas envie d'être infirmière. Ou bien il faut être employée de banque. Donc, je voyais pas ce que je pouvais faire. Ça ne me disait rien. Donc, moi, j'ai pas voulu continuer mes études. Ça a beaucoup ennuyé mon père. Et il a dit « Bon, mais puisque tu veux plus faire d'études, eh ben, tu viens avec moi, alors je vais t'acheter une machine à écrire. Et puis tu t'apprends mes factures, tu t'apprends mes lettres, puis tu tiens dans ma comptabilité. » Donc il m'a mis au boulot. Et finalement, après, ça m'a servi dans mon commerce. Donc c'était très bien. On a donc toujours travaillé ensemble. Pendant 30 ans, on a tenu cette bijouterie ensemble. On a travaillé ensemble. Puis il ne m'a jamais trompé parce qu'il était toujours avec moi. Il ne pouvait pas me tromper, de toute façon. C'est ça, c'est pratique. Je me dis, tu as de la chance, parce que j'ai eu la chance de trouver l'homme de ma vie, de bien m'entendre avec lui tout le temps, d'avoir 3 enfants qui m'ont toujours donné satisfaction, d'avoir des petits-enfants. Je dis, je n'ai pas le droit de me plaindre, parce que finalement, j'ai réussi ma vie. Voilà. Je suis ni belle ni moche, ni trop grande, ni trop grosse, ni trop... Non, tout va bien. Je suis bien dans mes baskets. Je n'ai pas de soucis... important. Il y a sans arrêt des petits trucs dans la vie où vous êtes occupé. Les jours passés, c'était l'aspirateur qui marchait plus. Il a fallu retourner l'aspirateur. Mais c'est des bricoles. Il faut faire avec. Mais tout m'intéresse, moi. Le sport m'intéresse, tout m'intéresse. Il va y avoir le rugby, là. Eh ben, je vais suivre ça. Surtout quand il va y avoir des matchs à Saint-Étienne, puis même les matchs à l'extérieur. Là, je crois qu'il y en a un cette semaine. Eh ben, je vais regarder ça avec plaisir à la télé. Dimanche, je vais aller à Saint-Chamond voir les équipes de basket. Et ben, je suis toute contente d'y aller, voilà, etc. Quand j'allais avoir 70 ans, mes enfants, qu'est-ce que tu veux pour tes 70 ans? Je dis à mon mari, à Paul, qu'est-ce que tu en penses si on prenait nous aussi un ordinateur? Alors, il me dit, oh ben oui. Eh bien, voilà. Et ma fille est née, elle est restée ici 2 ou 3 jours avec son mari. Ils m'ont tout installé, tout expliqué. J'ai bien tout écouté. Et puis, quand ils sont repartis, elle allait descendre les escaliers. Elle s'est tournée vers son mari et puis elle lui a dit « Ah, tu sais, on n'a pas fini d'avoir des coups de téléphone. » J'ai dit « Des coups de téléphone ? » Eh bien, ma vieille, tu n'auras pas des coups de téléphone. Je me débrouillerai toute seule. Et je n'ai jamais téléphoné. Je me suis débrouillée toute seule. Et puis, la vie vous sépare parce qu'on est vieux et qu'il faut bien partir un jour. Un jour, Paul était dans la chambre, j'ai entendu qu'il m'appelait. Il était tombé et puis il avait le visage en sang. Je savais que je ne pourrais pas le relever toute seule, donc j'ai appelé les pompiers. Il est parti au CHU et puis du CHU, il est resté quelque temps. Et puis on m'a dit, vous ne pourrez plus le garder chez vous, il faudra trouver une place en EHPAD ou dans une maison comme ça. Mais je n'ai même pas eu besoin parce qu'il est décédé avant. Et c'était très bien parce que c'était la fin de sa vie. Il faut savoir partir, laisser la place aux autres. Quand c'est la fin de sa vie, c'est ce qui m'arrivera moi dans quelques temps. Il faut savoir l'accepter. C'est plus logique la mort de Paul que la mort d'Alban, ma petite fille, qui allait avoir 10 ans. On l'a enterré 2 jours avant Noël, après 1 an de maladie. Alors vous voyez un peu l'ambiance. Dans le fond, je me dis, il me faudrait un AVC qui m'emporte rapidement, un truc comme ça. Parce que ce qui fait le plus peur, c'est d'être une pauvre vieille dans un fauteuil roulant qu'on traîne, qui est à moitié perdue. C'est ça qui fait peur. C'est plutôt la déchéance qui me fait peur. Et je vois bien que d'année après année, je baisse quand même. Mais bon, pour l'instant, ça va quand même. Je suis indépendante. Donc, je suis très bien où je suis. Ça, c'est très net. Et si je dois aller un jour dans une maison de retraite, eh bien, ce sera la mort dans l'âme. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Quand il ne fait pas trop chaud, à 4 heures, me voilà partie. Et je marche pendant 3 quarts d'heure, 1 heure avec mes bâtons. Je rentre. Je goûte un peu, je vais ouvrir mon ordinateur, je regarde les nouvelles du monde. Donc voilà, et puis après, c'est l'heure d'aller préparer son repas du soir. Je ne m'ennuie pas. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas des jours durs dans la vie, mais j'en ai eu le minimum, à mon avis. J'aurais pu en avoir beaucoup plus. Donc je ne veux pas pleurer. Je ne sais pas faire. Non, même pour l'enterrement de mon mari ou l'enterrement de ma petite fille, ça ne pouvait pas sortir les larmes. C'est pas que c'était pas gros dans le cœur, mais je suis pas pleureuse, sans doute. Donc, encore une fois, je n'ai pas le droit de me plaindre. Mets-toi bien ça dans la tête, ma belle.
Je m'appelle Jeanne Martin, j'ai 21 ans, je fais mes études à Grenoble en architecture. Donc je rentre les week-ends souvent pour voir mes parents. Ma maman, elle travaille dans le social, elle est dans une agence à Doma. À la base, c'était pour les anciens travailleurs algériens et maintenant, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et mon papa, lui, il travaille à l'usine qui fait des partages de bois pour les façades de maisons. Ils n'ont pas fait d'études, mes parents, en fait. Ils ont eu le bac et ils se sont un peu débrouillés comme ils pouvaient. Et ils ne nous ont jamais poussés à en faire. Enfin, ma maman, elle me dit tout le temps, tant que tu réussis ta vie à toi, on s'en fout, enfin, vraiment. Ma sœur, elle a déjà fait médecine, donc elle a déjà lancé la chose. Elle est sage-femme, maintenant. Moi, j'avais hésité, du coup, à aller dans le médical. Mais je n'avais pas envie de me comparer à ce moment-là. J'avais envie de faire mon truc à moi. Donc j'ai tenté l'archi et je l'ai eu du premier coup, donc après je me suis lancée. Et maintenant, bah, j'adore, hein, mais c'était pas une vocation de base à fond. Mes parents, ils se demandent juste comment on peut être leurs enfants, ils comprennent pas. Ils disent, nous on n'a rien fait, on faisait la fête tout le temps et elles étudient, ils comprennent pas, mais ils sont fiers, je pense, quand même. Ils comprennent pas le stress que ça peut être parce qu'ils ont jamais vécu ça, mais ils me prennent pas la tête dessus, ils essayent juste de me donner un rythme, de me dire qu'il n'y a pas que les études, c'est pas grave de retaper une année. Enfin, non, pour ça, j'ai de la chance, je pense. C'est très dur, les études, vraiment très dur, mais j'aime beaucoup. C'est des nuits blanches qu'on nous oblige à faire pendant des jours d'affilée, où on nous dit, levez-vous à 4 heures, mangez un peu pour terminer, parce qu'ils nous demandent vraiment de faire des maquettes la veille pour le lendemain. Pour nous les casser quand on arrive en disant que c'est nul ce qu'on fait, ils nous jettent tout à la figure. Enfin, vraiment, c'est très compliqué et c'est, psychologiquement, c'est très dur. Parce que les maquettes, ça coûte très cher. Moi, après, je suis exigeante. J'ai envie de la garder, la maquette. Je suis contente, je passe du temps. Du coup, bah, les étudiants, ils choisissent entre manger ou faire des maquettes. Du coup, on fait des maquettes. Ça me coûte entre 70 et 120 euros une maquette, quoi. C'est un budget que j'avais pas imaginé quand j'ai fait mes études. J'ai fait un prêt pour faire mes études. C'est moi qui vais le rembourser. Enfin, le but, c'est pas de dire je veux une grande école et vous allez me la payer. Enfin, c'est pas le but du tout. Enfin, je serais même plutôt contente de moi si à la fin je peux dire que c'est moi qui me suis débrouillée toute seule, etc. Mes parents, ils m'aident quand même, ils essayent. J'ai 150 euros par mois pour faire mes courses, pour les maquettes de base et le train, sauf que bah, c'est pas suffisant. Du coup, l'été, je bosse. Je mets tout de côté. Enfin, je me garde souvent un mois pour profiter quand même, moi, parce que voilà, c'est les vacances. Mais il y a 2 mois qui restent que pour le rembourser. Depuis l'année dernière, j'ai choisi de m'inscrire à un programme Erasmus. Et du coup, bah, je pars en Espagne dimanche, là, à 18h, pour aller direction Valence. Et j'y reste 1 an. C'est un peu la première fois que je pars aussi longtemps loin de ma famille, loin de mes amis. Et moi, j'adore l'idée, ça m'excite un peu, je suis pressée, quoi. Mais c'est stressant, parce que j'ai voyagé, mais jamais toute seule. Les seuls voyages que j'ai pu faire, c'était avec l'école. Enfin, en fait, c'était de l'euphorie à la fois où je ne sais plus du tout ce que je fais. Dans la même journée, je peux être trop contente de partir et le soir même, je suis en train de me dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je quitte mes amis, mon copain. Enfin, ça. Non, non, c'est bien. Ça ne change rien. Enfin, la peur, elle ne change pas l'envie. Je me dis que c'est l'occasion de me prouver que je suis capable aussi, parce que je suis quelqu'un de très anxieuse, qui a forcément confiance, et de me dire que j'ai été capable de me lancer toute seule dans un truc comme ça, bah, je trouve que c'est une réussite si j'y arrive. Puis je suis pas partie à l'autre bout du monde non plus, j'aurais pu partir en Amérique latine ou au Japon aussi, et j'ai choisi quand même l'Europe parce que je vais commencer petit à petit les voyages quand même. À la fois, j'aime bien voyager, mais j'ai toujours besoin de rentrer chez moi au bout d'un moment. C'est pour ça que je vais revenir à Noël. C'est pour voir ma famille, mais c'est aussi pour revoir mes montagnes, revoir ma maison. Je sais que j'en ai besoin quand même. Il y a le Parmelan, ici. C'est une montagne que, dans ma famille, on aime tous. Hein. Ma sœur, c'est quelque chose qui représente beaucoup pour elle. C'est une montagne avec son amoureux, etc. Et moi, c'est juste une montagne que c'est celle où je randonne le plus, que je connais bien. C'est le Parmelan qui va me manquer le plus, parce que c'est celle que je vois depuis chez moi aussi. Depuis la fenêtre de ma cuisine, on peut le voir. Et ma maman a beaucoup de mal à me laisser partir. Et du coup, c'est un côté où c'est compliqué pour moi aussi de partir longtemps parce que je sais que je laisse des gens qui, eux, ont du mal à être seuls alors que moi, non, pas forcément. Là, je sais que l'aéroport, elle a demandé à ce que mon père m'emmène aussi parce qu'elle ne veut pas être toute seule pour le retour. Elle ne pourra pas conduire, quoi. Elle m'a dit, t'as besoin de t'éloigner, je comprends, t'as besoin de prendre du recul. Et moi, c'est un peu prendre de l'air et vivre des choses que pour moi et pas forcément. C'est un peu égoïste, mais parce que je pense pas être quelqu'un d'égoïste du tout, justement. Et là, c'est l'occasion où je me prends un an où il y a que moi, en fait. Donc, c'est bien aussi. Dans ma famille, on est très sensibles tous. Il y a mon papa, il est très sensible. Ça doit être lui le plus sensible. Il a pas peur de pleurer en écoutant une musique, en regardant un film, des choses comme ça. Il dit pas forcément ce qu'il pense, mais ça se voit. Oui, mon papa, c'est assez impressionnant. Et moi, je trouve ça bien parce que du coup, il se cache pas, il s'en empêche pas. Lui, il est vraiment. Il m'envie, il m'en parle tout le temps, il dit ça va être trop bien. De toute façon, ils vont venir me voir, je le sais, avec leur petite caravane. Ils ont une petite caravane en amoureux et je pense qu'ils vont venir me voir. Pour les affaires, j'ai absolument rien préparé. Moi, je suis quelqu'un qui est très attaché aux objets pour les souvenirs ou les choses comme ça. Du coup, par exemple, là, c'est ça le plus compliqué, c'est qu'est-ce que je laisse dans ma chambre pendant un an et qu'est-ce que j'emmène avec moi. J'ai mon journal intime dans lequel j'écris plus du tout, mais dedans, il y a plein de souvenirs, plein de cartes, des endroits où je suis allée ou des choses comme ça. J'ai une petite clé en forme de cœur qui vient de l'armoire de mon grand-père. Parce que mon grand-père, il fabriquait tout en miniature. Il avait fait une maison entière à la main avec des objets que en miniature, mais très, très, très réalistes. Où dedans, il y a tout. Il y a la mini carte d'identité, le petit pot de confiture, enfin, il y a tout. Et il y a la clé qui permet de l'ouvrir et fermer. Et ça, on me l'a offert. Et du coup, bah, je la garde tout le temps. Mais j'ai très peur de la perdre parce qu'elle est vraiment minuscule. L'année dernière, on nous a demandé d'écrire un rapport d'études où on devait dire quel architecte on veut devenir. En fait, c'est bête, mais. Je suis arrivée en archi avec l'idée de je vais fabriquer la maison des rêves de tout le monde et tout le monde m'a dit tu vas fabriquer ma maison. Sauf que quand on rentre en archi, on se rend compte qu'il y a plein d'autres enjeux sur lesquels on peut travailler plutôt que de faire une villa de je sais pas combien de mètres carrés. Il y avait un côté très luxe qu'on avait dans la tête en rentrant en archi que j'ai plus du tout maintenant. Et je me serais jamais imaginée aimer travailler sur des immeubles, les faire écologiques, les faire pour du social. Je pense qu'il y a le fait du boulot de ma mère, quand même. Je veux créer des espaces un peu plus agréables. Je sais que je veux travailler pour les gens, mais ça me semble plutôt évident. Donc, je n'ai pas de but précis encore maintenant. Je ne crois pas que je connaisse d'autres Jeanne Martin à part la chanson de Brassens. C'est un peu pour ça que je m'appelle Jeanne. C'est une chanson qui touche beaucoup mes parents. parce que dans cette chanson, la Jeanne, c'est une femme que Georges Brassens elle a connue, une vieille dame qui l'a accueillie. Et justement, c'est une dame où, quand on venait dans son auberge, elle accueillait les bras ouverts. Elle est un peu pauvre, mais elle donne à tout le monde, ça, c'est pas le problème. Et c'était vraiment la vision de quelqu'un qui est généreux, qui est là pour les gens. Et maintenant que je suis grande, mes parents ils disent qu'ils ont peut-être bien trouvé, parce qu'au final, ça me ressemble un petit peu. Je sais que c'est une des raisons et ça me va.
Je m'appelle Jeanne Martin, j'ai 41 ans. J'habite pas très loin de Grenoble, à Bilieu, dans un petit village à côté du lac de Paladru. Je suis enseignante en collège. Une autre Jeanne Martin vit dans l'agglomération voironnaise. Je crois que c'est une personne qui aujourd'hui doit avoir 85 ou 86 ans. Et on a dans certains magasins une carte de fidélité commune par notre prénom. Mais on a une différence d'âge qui fait que on sait qui est l'une et qui est l'autre. Je me caractérise comme quelqu'un de plutôt optimiste, je suis assez généreuse, je pense aussi. Je suis assez curieuse de rencontrer des gens et je pense que c'est en ça que j'aime mon métier aussi. Tous les jours, je rencontre et je côtoie beaucoup de monde, ce qui fait que c'est un petit peu mon étincelle. Moi, je me voyais avec une famille plutôt nombreuse. Je me voyais bien avec 3 enfants. Alors peut-être que c'est un schéma que je voulais reproduire puisque j'ai également un petit frère et une grande sœur que j'adore. Et en fait, je me suis dit déjà, si j'arrive à bien l'encadrer et bien le suivre, ce sera déjà bien. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis Jeanne Martin, j'ai un conjoint et un enfant. Mais ça me va bien comme ça et je suis tout aussi heureuse. J'ai rencontré Nicolas en 2014 et je l'ai rencontré par hasard dans un bar. Ce que j'ai aimé chez lui, c'est son humour, ses blagues tout le temps et puis je le trouvais beau. Donc on s'est rapidement installé ensemble. À l'époque, donc j'habitais à Lille. J'étais donc enseignante dans le nord de la France et il est venu me rejoindre dans le nord. Et pareil, extrêmement rapidement, en fait, je suis tombée enceinte et la question s'est posée de qu'est-ce qu'on fait? On le garde, on le garde pas? On était ensemble depuis seulement 4 mois et puis on a décidé de garder ce petit bébé qui allait naître et qui allait s'appeler Robin. Cette grossesse, je l'ai pas vraiment vue passer très rapidement. On est passé de 2 à 3 et en fait, c'était assez joyeux. Donc j'ai eu ma mutation, donc je quitte Lille et on arrive donc dans la région grenobloise, que j'ai mon nouveau poste dans le nord de l'Isère. Et là, la cata va commencer puisque Robin arrête de faire ses nuits. Il va nous réveiller, je dirais 6-7 fois par nuit. Il hurle, il crie, nous on a peur qu'il réveille les voisins, on n'arrive pas à trouver le sommeil. Et ça, ça va durer à peu près 3 ans et demi. Et la joie dans le foyer commence à s'éteindre un petit peu puisque c'est très compliqué finalement de mener une vie, on va dire, active, d'avoir un enfant et de pouvoir continuer à avoir une vie sociale. Et là, on a des premiers signaux un peu bizarres qui commencent à apparaître. Robin commence à faire des signes un petit peu avec sa main. Il a fait se balancer la main gauche et avec un regard fuyant. Comme s'il regardait sur le côté, en fait, les murs, les objets. Donc là, moi, je commence à me poser un petit peu des questions. J'en parle au pédiatre et il m'explique qu'il pense qu'à 50%, Robin est peut-être dans un trouble du spectre autistique, donc un TSA, et à 50% que non. Moi, vraiment, à cette époque-là, j'ai peur de la projection future. J'ai cherché des informations sur Internet. J'en ai peu trouvé, en tout cas dans ma région. Alors bon, moi j'ai essayé de stimuler comme je pouvais, mais Robin, en comparant en fait avec d'autres enfants en termes de motricité, non, il était très très en retard. Donc là, je pense qu'il a 2 ans et demi, donc le diagnostic, il est entre guillemets posé, mais de toute façon, il n'est pas encore officiel, mais il n'y a rien d'officiel hein, dans le trouble du spectre autistique. Donc on avance. Moi, je travaille assez loin du domicile, donc je suis de plus en plus fatiguée. Et puis, le papa va prendre un travail d'ambulancier. C'est un milieu très compliqué, c'est-à-dire que les horaires sont en décalé, en fait. Donc, à l'intérieur du couple, ça va devenir un petit peu compliqué. Donc, on commence un peu à prendre nos distances. Et Robin, à cette époque-là, ne dort toujours pas. J'ai de plus en plus de mal à prendre sur moi. Et en fait, on va finir par décider de se séparer. Donc là, c'est un peu compliqué. On organise la semaine de manière à ce qu'on puisse voir tous les deux Robin. Donc, on va avoir ce rythme-là pendant 2 ans et demi. Et puis, on a fini par retrouver notre chemin de vie commune. Et donc là, on est ensemble à nouveau depuis un peu plus de 6 mois. Et donc, on vit dans la petite maison que j'ai achetée il y a 2 ans. Et ça se passe super bien. Donc magie, et en fait là on reprend du poil de la bête, mais ça n'avait pas effacé en fait toutes ces difficultés qu'on avait rencontrées en fait à l'intérieur du couple. Donc oui, on s'est séparés pour des raisons, je pense également individuelles, je pense qu'on avait également besoin de se retrouver avec nous-mêmes. Cette période de 2 ans et demi, moi, ça m'a déjà permis de me reconstruire au niveau de mes habitudes. Donc, j'étais quelqu'un assez sportive et là, je faisais plus du tout de sport. Donc là, j'ai pu me remettre à courir, j'ai pu me remettre à la randonnée. Et puis, on a beau dire, mais on se coupe un petit peu du monde. Donc, on se remet ensemble, mais c'est pour nous, mais aussi en fait pour Robin, quoi. Et puis, c'est vrai que c'est quand même plus facile de mener ce combat, en fait, à 2 adultes, plutôt que seul, en fait, chacun de son côté. Robin, depuis qu'il est à l'école, donc il a fait que une école classique, mais avec déjà une aide humaine. Il avait déjà une AESH individuelle, qui est là, en fait, pour l'aiguiller, pour l'amener, on va dire, dans le meilleur des cas, à l'autonomie. À la rentrée, là, on nous annonce qu'il perd ses 12 heures d'AESH individuelles. Et ça, c'est vraiment, pour moi, un problème, parce que c'est grâce à cette aide humaine, en fait, qu'il arrive à progresser comme ça à l'école. Donc, quel est l'avenir? Ça veut dire que, ben, je sais pas, moi, Robin, il sera peut-être mis dans une institution, ou Robin, il sera peut-être en école à la maison. Donc, ça veut dire qui va faire école à la maison? C'est sans doute moi. Donc, ça veut dire que peut-être qu'une fois qu'il sera arrivé à l'âge du collège, moi, je vais devoir peut-être arrêter de travailler pour pouvoir justement l'aider. Il faut quand même se dire, ma vie, elle va être tournée pour Robin, sur Robin, pour toujours, mais j'aime bien ma vie, ouais. Je pensais même pas que cette situation de handicap m'amènerait vers cette magnifique expérience, parce qu'en fait, Robin me fait vivre une sacrée expérience, hein. Ça nous demande de jongler et de marcher sur des œufs, mais aujourd'hui, ouais, je suis satisfaite. J'aime bien ne rien faire, alors qu'avant j'étais quelqu'un de hyper active. Donc maintenant j'aime bien me poser, j'aime bien observer, regarder, j'aime bien me réjouir de rien. Et ça c'est assez incroyable. Et du coup, ouais, je dirais avec du recul, ouais, ma vie me plaît. Et j'espère que dans 10 ans, 15 ans, on sera toujours là, dans cette petite maison, à prendre le temps d'observer, se regarder et de se dire finalement, un petit chant d'oiseau ou un coucher du soleil suffit à être bien. Voilà.
C'était Jeanne et Paul Martin, premier épisode d'une série en 7 épisodes, dont vous pouvez retrouver et écouter la totalité sur le site de France Culture et l'appli Radio France. Ce premier épisode était proposé par Valérie Borst, réalisé par Éric Lancien, avec un coup de main de Jean-Christophe Francis, et diffusé pour la première fois en septembre 2023, une deuxième et peut-être dernière fois à toutes et à tous. Tous nos voeux de bonne année de la part de l'équipe entière des Pieds sur Terre. Life's easy.
Ce vendredi, dans Science Chrono, on commence l'année en dansant et on part près de la mer du Nord.
Antoine Beauchamp.
En 1518, à Strasbourg, des dizaines de personnes se sont mises à danser jusqu'à l'épuisement. On se demandera quelles étaient les raisons de cette épidémie dansante et comment elle a mis les médecins de l'époque dans l'embarras. Et dans l'entretien archéologique, on part à Dunkerque à la découverte de vestiges qui sont les témoins des premiers aménagements littoraux réalisés au Moyen-Âge pour gagner du terrain sur la mer du Nord.
Science Chrono, chaque vendredi à 16h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Question du soir, c'est tous les jours, du lundi au vendredi à 18h20 et c'est 1h30 d'analyse, de rencontres et de découvertes.
Quentin l'a fait.
Un débat d'abord, débat d'actualité avec des chercheurs et des experts, une discussion ensuite avec un invité qui vient parler de l'actualité de la recherche, de la pensée et des idées.
Question du soir, du lundi au vendredi à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Bonjour, c'est Xavier Mauduit. Pour les 80 ans de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, je vous propose Preuve d'Humanité, un podcast où la pensée d'hier et d'aujourd'hui titille la réflexion.
À découvrir sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Tout de suite, François Saltiel.
France Culture, la fabrique de l'information, François Saltiel.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la fabrique de l'information, le rendez-vous de France Culture consacré au décryptage du travail journalistique et à l'analyse des récits médiatiques. J'en profite au nom de toute l'équipe pour vous souhaiter une très belle année 2026. Nous pouvons déjà parier qu'elle ne manquera pas d'actualité et je vous remercie chaleureusement de nous accompagner. Depuis le mois de septembre, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Cette semaine, nous ouvrons l'année avec un grand entretien d'une journaliste passée par tous les postes et les médiums, chroniqueuse et éditorialiste sur les chaînes de télévision, France 2, Canal+, ou BFM, les studios de radio, notamment sur Europe 1 avant sa mutation bolloréenne, et depuis plusieurs années sur France Inter, et bien entendu la presse écrite, noyau dur de son activité avec l'hebdomadaire Marianne, qu'elle a fini par diriger pendant un septennat. Natacha Polony est notre invitée, il sera intéressant de retracer avec elle la couverture médiatique des grands bouleversements de l'année 2025, de l'instabilité politique de la 5e à l'incarcération de Nicolas Sarkozy, en passant par la montée en puissance du Rassemblement National tout en observant les événements internationaux de Gaza à l'Ukraine où Donald Trump cherche constamment à se placer au centre du jeu. Concentration des médias, polarisation des idées et impact des réseaux sociaux. Nous allons discuter de tous ces sujets pendant une heure avec celle qui ne manque ni de conviction ni d'audace. Bonjour Natacha Polony.
Bonjour.
Si je parle d'audace, c'est bien pour présenter la revue que vous venez de lancer et qui emprunte ce nom, L'Audace, une revue trimestrielle dont le premier numéro est sorti début décembre. Nous allons revenir sur sa ligne éditoriale et les défis qu'animent cet objet de papier à l'heure de la numérisation du monde. Nous pourrons également compter sur un partenaire fidèle à la fabrique. Il s'agit de Courrier International qui veille, sélectionne et traduit le meilleur de la presse étrangère avec Julien Abiramia. Bonjour Julien.
Bonjour.
Quel est le programme de cette première chronique?